Thé et tête ou de la science.
Partie 3.
Thé et tête. Après de tels encouragements de ta part, Socrate, il serait honteux de ne pas faire tous ces efforts pour dire ce qu'on a dans l'esprit. Il me paraît donc que celui qui sait une chose sent ce qu'il sait, et, autant que j'en puis juger, en ce moment, la science n'est autre chose que la sensation. Socrate. Bien répondu, et avec franchise, mon enfant. Il faut toujours dire ainsi ce que tu penses. Maintenant, il s'agit d'examiner en commun si cette conception est solide ou frivole. La science est, dis-tu, la sensation.
Théétète. Oui.
Socrate. Cette définition que tu donnes de la science n'est point à mépriser. C'est celle de Protagoras, quoiqu'il se soit exprimé d'une autre manière. L'homme, dit-il, est la mesure de toute chose, de l'existence de celle qui existe et de la non-existence de celle qui n'existe pas. Tu as lu sans doute ces paroles,
Théétète.
Oui, et plus d'une fois.
Socrate.
Son sentiment n'est-il pas que les choses sont pour moi telles qu'elles me paraissent, et pour toi telles qu'elles te paraissent aussi? Car nous sommes hommes, toi et moi,
Théétète.
C'est en effet ce qu'il dit, Socrate. Il est naturel de croire qu'un homme si sage ne parle point en l'air. Suivons donc le fil de ses idées. N'est-il pas vrai que, quelquefois, lorsque le même vent souffle, l'un de nous a froid et l'autre point? Celui-ci peu, celui-là beaucoup.
Théétète.
Assurément. Socrate. Dirons-nous alors que le vent pris en lui-même est froid ou n'est pas froid? Ou croirons-nous à Protagoras, qui veut qu'il soit froid pour celui qui a froid et qu'il ne le soit pas pour l'autre?
Théétète.
En cela est vraisemblable.
Socrate.
Le vent ne paraît-il pas tel à l'un et à l'autre?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et qui dit paraître dit sentir?
Théétète.
Sans doute.
Socrate.
L'apparence et la sensation sont donc la même chose par rapport à la chaleur et aux autres qualités sensibles, puisqu'elles ont bien l'air d'être pour chacun telles qu'il les sent.
Théétète.
Probablement.
Socrate.
La sensation se rapporte donc toujours à ce qui est et n'est pas susceptible d'erreur en tant que science.
Théétète.
Il y a apparence.
Socrate.
Au nom des grâces, Théétète, Protagoras n'était-il pas un très habile homme qui ne nous a montré sa pensée qu'énigmatiquement, à nous autres gens du commun, au lieu qu'il a révélé la vérité tout entière à ses disciples?
Théétète.
Qu'entends-tu par là, Socrate?
Socrate.
Je vais te le dire. Il s'agit d'une opinion qui n'est pas de médiocre conséquence. Il prétend qu'aucune chose n'est absolument et qu'on ne peut attribuer à quoi que ce soit, avec raison, aucune dénomination, aucune qualité, que si on appelle une chose grande, elle paraîtra petite, pesante, elle paraîtra légère, et ainsi du reste, parce que rien n'est un, ni tel, ni affecté d'une certaine qualité, mais que du mouvement réciproque et du mélange de toutes choses se forme tout ce que nous disons exister, nous servant en cela d'une expression impropre. Car rien n'est, mais tout se fait. Tous les sages, à l'exception de Parménide, s'accordent sur ce point. Protagoras, Héraclide, Empédocle, les plus excellents poètes dans l'un et l'autre genre de poésie, Épicharme dans la comédie, et dans la tragédie Homère. En effet, Homère n'a-t-il pas dit « L'océan, père des dieux, et Tétis leur mère », donnant à entendre que toutes choses sont produites par le flux et le mouvement. Ne crois-tu pas que c'est là ce qu'il a voulu dire?
Théétète.
Oui,
Socrate.
Qui oserait donc désormais faire face à une telle armée, ayant Homère à sa tête, sans se couvrir de ridicule?
Théétète. La chose n'est point aisée, Socrate.
Socrate.
Non, sans doute, Théétète. D'autant plus qu'ils appuient sur de fortes preuves cette opinion, que le mouvement est le principe de l'existence apparente et de la génération, et le repos, celui du non-être et de la corruption. En effet, la chaleur et le feu qui engendre et entretient tout est lui-même produit par la translation et le frottement, qui ne sont que du mouvement. N'est-ce pas là ce qui donne naissance au feu?
Théétète.
Sans contredit,
Socrate.
L'espèce des animaux doit aussi sa production au même principe.
Théétète.
Assurément.
Socrate.
Mais quoi? Notre corps ne se corrompt-il point par le repos et l'inaction? Et ne se conserve-t-il pas principalement par l'exercice et le mouvement?
Théétète.
Oui.
Socrate.
L'âme elle-même n'acquiert-elle pas et ne conserve-t-elle pas l'instruction? Et ne devient-elle pas meilleure par l'étude et la méditation, qui sont des mouvements? Au lieu que le repos, c'est-à-dire le défaut de réflexion et d'étude, l'empêche de rien apprendre, ou lui font oublier ce qu'elle a appris.
Théétète.
Rien de plus vrai.
Socrate.
Le mouvement est donc un bien pour l'âme comme pour le corps, et le repos un mal.
Théétète.
Selon toute apparence.
Socrate.
Te dirais-je encore, à l'égard du calme, du temps serein et des autres choses semblables, que le repos pourrit et perd tout, et que le mouvement fait l'effet contraire. Mettrai-je le comble à ces preuves en te forçant d'avouer que par la chaîne d'or dont parle Homère, il n'entend et ne désigne autre chose que le soleil? Parce que, tant que la marche circulaire des cieux et du soleil a lieu, tout existe, tout se maintient chez les dieux et chez les hommes. Tandis que si cette révolution venait à s'arrêter et à être en quelque sorte enchaînée, toute chose périrait et serait, comme on dit, sans dessus dessous.
Théétète.
Il me paraît, Socrate, que c'est bien là la pensée d'Homère.
Socrate.
Admets donc, mon cher, cette façon de raisonner d'abord pour tout ce qui frappe tes yeux. Conçois que ce que tu appelles couleur blanche n'est point quelque chose qui existe hors de tes yeux, ni dans tes yeux. Ne lui assigne même aucun lieu déterminé, parce qu'ainsi elle aurait un rang marqué, une existence fixe, et ne serait plus en voie de génération.
Théétète.
Mais comment donc me la représenterais-je?
Socrate.
Suivons le principe que nous venons de poser, qu'il n'existe rien qui soit un absolument. De cette manière, le noir, le blanc et toute autre couleur nous paraîtra formé par l'application des yeux à un mouvement convenable. Et ce que nous disons être une telle couleur ne sera ni l'organe appliqué, ni la chose à laquelle il s'applique, mais je ne sais quoi d'intermédiaire et de particulier à chaque être. Voudrais-tu soutenir, en effet, qu'une couleur paraît telle à un chien ou à tout autre animal qu'elle te paraît à toi-même?
Théétète.
Ah non, par Jupiter!
Socrate.
Il y a plus. Est-il une chose qui soit la même pour un autre homme et pour toi? Oserais-tu le soutenir? Ou n'affirmerais-tu pas plutôt que pour toi-même, rien n'est rigoureusement identique, parce que tu n'es jamais identique à toi-même?
Théétète.
J'incline vers ce sentiment plutôt que vers l'autre.
Socrate.
Si donc l'objet que nous mesurons ou touchons était ou grand, ou blanc, ou chaud, étant en rapport avec un autre objet, il ne deviendrait jamais autre s'il ne se faisait en lui aucun changement. Et d'autre part, si l'organe qui mesure ou qui touche, avait quelqu'une de ses qualités, lorsqu'un autre objet lui serait appliqué, ou le même qui aurait souffert quelque altération, il ne deviendrait pas autre, s'il n'éprouvait lui-même aucun changement. Songe encore, mon cher ami, que dans l'autre sentiment, nous sommes contraints d'avancer des choses tout à fait surprenantes et ridicules, comme diraient Protagoras et ses partisans.
Théétète,
comment et que veux-tu dire ?
Socrate,
un petit exemple te fera comprendre toute ma pensée. Si tu mets 6 osselets vis-à-vis de 4, nous dirons qu'ils sont un plus grand nombre et surpassent 4 de la moitié en sus. Si tu les mets vis-à-vis de 12, nous dirons qu'ils sont en plus petit nombre et la moitié seulement de 12. Il ne serait point supportable qu'on parlât autrement. Le souffrirais-tu ?
Théétète.
Non, certes.
Socrate.
Mais quoi ? Si Protagoras ou tout autre te demandait.
Théétète.
Se peut-il faire qu'une chose devienne plus grande ou plus nombreuse autrement que par voie d'augmentation ?
Que répondrais-tu ?
Théétète. Si je réponds, Socrate, ce que je pense, en ne faisant attention qu'à la question présente, je dirais que non. Mais si j'ai égard à la question précédente, pour éviter de me contredire, je dirais que oui.
Socrate.
Par Junon, voilà bien répondre, et divinement, mon cher ami. Il paraît pourtant que si tu dis que oui, il arrivera quelque chose d'approchant du mot d'Euripide. La langue sera à l'abri de tout reproche, mais il n'en sera pas ainsi de l'âme.
Théétète. Cela est vrai.
Socrate. Si donc nous étions habiles et savants l'un et l'autre, et que nous eussions épuisé l'examen de ce qui se passe dans l'âme, il ne nous resterait plus qu'à essayer nos forces pour nous divertir dans des disputes à la manière des sophistes, réfutant de part et d'autre nos discours par d'autres discours. Mais, comme nous sommes ignorants, nous prendrons sans doute le parti d'examiner avant tout ce que nous avons dans l'âme, pour voir si nos pensées sont d'accord entre elles ou non.
Théétète.
Sans contredit. C'est ce que je souhaite.
Socrate.
Et moi aussi. Cela étant, et puisque nous en avons tout le loisir, ne considérerons-nous pas à notre aise, et sans nous fâcher, mais pour faire l'essai de nos forces, ce que peuvent être toutes ces images qui troublent notre esprit. Nous dirons, je pense, en premier lieu, que jamais aucune chose ne devient ni plus grande, ni plus petite, soit pour la masse, soit pour le nombre, tant qu'elle demeure égale à elle-même. N'est-il pas vrai ?
Théétète.
Oui.
Socrate.
En second lieu, qu'une chose à laquelle on ajoute ni on ôte rien ne saurait augmenter ni diminuer et demeure toujours égale.
Théétète.
Cela est incontestable.
Socrate.
Ne dirons-nous point en troisième lieu que ce qui n'existait point auparavant ne peut exister ensuite, s'il n'a été fait ou ne se fait actuellement ?
Théétète.
Je le pense.
Socrate.
Or, ces trois propositions se combattent, ce me semble, dans notre âme, lorsque nous parlons des osselets, ou lorsque nous disons qu'à l'âge où je suis, et n'ayant éprouvé ni augmentation ni diminution, je suis dans l'espace d'une année d'abord plus grand, ensuite plus petit que toi qui es jeune, non parce que le volume de mon corps est diminué, mais parce que celui du tien est augmenté. Car je suis dans la suite ce que je n'étais point auparavant, sans l'être devenu, puisqu'il est impossible que je sois devenu tel sans que je le devinsse, et que n'ayant rien perdu du volume de mon corps, je n'ai pu devenir plus petit. si nous admettons une fois cela, nous ne pourrons nous dispenser d'admettre une infinité de choses semblables. Suis-moi bien, Théétète, car il me paraît que tu n'es pas neuf sur ces matières.
Théétète.
Par tous les dieux, Socrate, je suis extrêmement étonné de ce que tout cela peut être, et quelquefois en vérité, lorsque j'y jette les yeux, ma vue se trouble entièrement.
Socrate.
Mon cher ami, il paraît que Théodore n'a point porté un faux jugement sur le caractère de ton esprit. L'étonnement est un sentiment philosophique. C'est le vrai commencement de la philosophie. Et il paraît que le premier qui a dit qu'Iris était fille de Thomas n'en a pas mal expliqué la généalogie. Mais comprends-tu que les choses sont telles que je viens de le dire, en conséquence du système de Protagoras, ou n'y es-tu pas encore ?
Théétète.
Ah, il me paraît que non.
Socrate.
Tu m'auras donc obligation, si je pénètre avec toi dans le sens véritable, mais caché, de l'opinion de cet homme, ou plutôt de ces hommes célèbres.
Théétète.
Comment ne t'en saurais-je pas gré, et un gré infini ?
Socrate.
Regarde autour de nous, si aucun profane ne nous écoute. J'entends par là ceux qui ne croient pas qu'il existe autre chose que ce qu'ils peuvent saisir à pleine main, et qui nient et les actes de l'esprit et les générations des choses, et tout ce qui est invisible.
Théétète.
Tu parles là, Socrate, d'une espèce d'hommes durs et intraitables.
Socrate.
Ils sont en effet bien ignorants, mon enfant. Mais il en est d'autres plus éclairés, dont je vais te révéler les mystères. Leur principe, d'où dépend tout ce que nous venons d'exposer, est celui-ci. Tout est mouvement dans l'univers, et il n'y a rien autre chose. Or, le mouvement est de deux espèces, toutes deux infinies en nombre, mais dont l'une est active et l'autre passive. De leur concours et de leur frottement mutuel se forment des productions innombrables rangées sous deux classes, l'objet sensible et la sensation, laquelle coïncide toujours avec l'objet sensible et se fait avec lui. Les sensations ont les noms de vision, d'audition, d'odorat, de froid, de chaud, et encore de plaisir, de douleur, de désir, de crainte. Sans parler de bien d'autres, dont une infinité manque d'expression. Chaque objet sensible est contemporain de chacune des sensations correspondantes. Des couleurs de toute espèce répondent à des visions de toute espèce. Des sons divers aux diverses affections de l'ouïe, et les autres choses sensibles aux autres sensations. Conçois-tu, Théétète, le rapport de ce discours avec ce qui précède ?
Théétète.
Pas trop, Socrate.
Socrate.
Fais donc attention à la conclusion où il aboutit. Il veut dire, comme nous l'avons déjà expliqué, que tout cela est en mouvement, et que ce mouvement est lent ou rapide, que ce qui se meut lentement exerce son mouvement dans le même lieu et sur les objets voisins, qu'il produit de cette manière et que ce qui est ainsi produit a plus de lenteur, qu'au contraire, ce qui se meut rapidement, déployant son mouvement sur des objets plus éloignés, produit d'une manière différente et que ce qui est ainsi produit a plus de vitesse, car il change de place dans l'espace et son mouvement consiste dans la translation. Lors donc que l'œil d'une part et de l'autre un objet en rapport avec l'œil se sont rencontrés et ont produit la blancheur et la sensation qui lui répond naturellement, lesquelles n'auraient jamais été produites si l'œil était tombé sur un autre objet, ou réciproquement. Alors, ces deux choses se mouvant dans l'espace intermédiaire, savoir la vision vers les yeux et la blancheur vers l'objet qui produit la couleur conjointement avec les yeux, l'œil se trouve rempli de la vision, il aperçoit et devient non pas vision, mais œil voyant. De même, l'objet qui concourt avec lui à la production de la couleur est rempli de blancheur et devient non pas blancheur, mais blanc. Soit que ce qui reçoit la teinte de cette couleur soit du bois, de la pierre ou toute autre chose. Il faut se former la même idée de toutes les autres qualités, telles que le dur, le chaud, et ainsi du reste, et concevoir que rien de tout cela n'est tel en soi, comme nous disions tout à l'heure, mais que toutes choses sont produites avec une diversité prodigieuse dans le mélange universel qui est une suite du mouvement. En effet, il est impossible, disent-ils, de se représenter d'une manière fixe aucun être sous la qualité d'agent ou de patient. Parce que rien n'est agent avant son union avec ce qui est patient, ni patient avant son union avec ce qui est agent. Et ce qui, dans son concours avec un certain objet, est agent, devient patient à la rencontre d'un autre objet, de façon qu'il résulte de tout cela, comme il a été dit au commencement, que rien n'est un absolument, que chaque chose n'est qu'un rapport qui varie sans cesse, et qu'il faut retrancher partout le mot « être ». Il est vrai que nous avons été contraints de nous en servir souvent tout à l'heure, à cause de l'habitude et de notre ignorance. Mais le sentiment des sages est qu'on ne doit pas en user, ni dire en parlant de moi ou de quelque autre que je suis quelque chose, ou ceci, ou cela, ni employer aucun autre terme qui marque un état de consistance, et que, pour s'exprimer selon la nature, on doit dire des choses qu'elles deviennent, agissent, périssent et se métamorphosent. Car représenter dans le discours quoi que ce soit comme stable, c'est s'exposer à une facile réfutation. Telle est la manière dont on doit parler des choses prises individuellement ou collectivement. Et ce sont ces collections qu'on appelle homme, pierre, animal, enfin, toute classe. Prends-tu plaisir, tête, à cette opinion, et serait-elle de ton goût? Tête. Je ne sais qu'en dire, Socrate, car je ne puis découvrir si tu parles ici selon ta pensée ou si c'est pour me sonder. Socrate. Tu as oublié, mon cher ami, que je ne sais ni ne m'approprie rien de tout cela et qu'à cet égard, je suis stérile. Mais que je t'aide à accoucher et que dans cette vue, j'ai recours aux enchantements et propose à ton goût les opinions de chaque sage. Jusqu'à ce que j'ai mis la tienne au jour. Lorsqu'elle sera sortie de ton sein, j'examinerai alors si elle est frivole ou solide. Prends donc courage et patience. Réponds librement et hardiment ce qui te paraîtra vrai sur ce que je te demanderai. Tête. Tu n'as qu'à interroger. Socrate. Dis-moi donc. Je te le demande de nouveau, si tu es de ce sentiment que ni le bon, ni le beau, ni aucun des objets dont nous venons de faire mention n'est dans l'état fixe d'existence, mais toujours en voie de génération. Tête. Lorsque tu l'exposes, il me paraît merveilleusement fondé en raison, et je pense qu'on doit prendre tes paroles pour la vérité. Socrate. Ne négligeons donc pas ce qui nous en reste à expliquer. Or, nous avons encore à parler des songes, des maladies, de la folie surtout, et de ce qu'on appelle entendre, voir, sentir de travers. Tu sais sans doute que tout cela est regardé comme une preuve incontestable de la fausseté du système dont nous venons de parler, puisque les sensations qu'on éprouve en ces circonstances sont tout à fait menteuses, et que, bien loin que les choses soient alors telles qu'elles paraissent à chacun, tout au contraire, rien de ce qui paraît être n'est en effet.
Tête.
Rien de plus vrai, Socrate.
Socrate.
Quel moyen de défense reste-t-il donc, mon enfant, à celui qui prétend que la sensation est la science, et que ce qui paraît à chacun est tel qu'il lui paraît?
Tête.
Ah, je n'ose dire, Socrate, que je ne sais que répondre, car tu m'as grondé, il n'y a qu'un moment, pour l'avoir dit. Mais en vérité, je ne vois aucun moyen de contester qu'on se forme des opinions fausses dans la folie et dans les songes. Quand les uns s'imaginent qu'ils sont dieux, les autres qu'ils ont des ailes et qu'ils volent durant leur sommeil.
Socrate.
Ne te rappelles-tu pas quelles controverses les partisans de ce système élèvent à ce sujet, et principalement sur l'état de veille et de sommeil?
Tête.
Que disent-ils donc?
Socrate.
Ce que tu as, je pense, entendu souvent de la part de ceux qui demandent quelles preuves certaines nous pourrions apporter au cas où l'on voudrait savoir de nous, à ce moment même, si nous dormons et si nos pensées sont autant de rêves, ou si nous sommes éveillés et conversons réellement ensemble.
Tête.
Il est fort difficile, Socrate, de démêler les véritables signes auxquels cela peut se reconnaître. Car, dans l'un et l'autre état, ce sont les mêmes caractères qui se répondent, pour ainsi dire. En effet, rien n'empêche que nous ne nous imaginions tenir ensemble en dormant les mêmes discours que nous tenons à présent. Et, lorsqu'en songeant, nous croyons raconter nos songes, la ressemblance est merveilleuse avec ce qui se passe dans l'état de veille.
Socrate.
Tu vois donc qu'il n'est pas malaisé de faire là-dessus des difficultés, puisque l'on conteste même sur la réalité de l'état de veille ou de sommeil, et que le temps où nous dormons étant égal à celui où nous veillons, notre âme, dans chacun de ses états, se soutient à elle-même que les jugements qu'elle porte alors sont les seuls vrais. En sorte que nous disons pendant un égal espace de temps, tantôt que ceux-ci sont véritables, tantôt que ce sont ceux-là, et que nous prenons également parti pour les uns et pour les autres.
Tête.
J'en conviens.
Socrate.
Il faut dire la même chose des maladies et des accès de folie, si ce n'est peut-être par rapport à la durée, qui n'est pas égale.
Tête.
Fort bien.
Socrate.
Mais quoi ? Sera-ce le plus ou le moins de durée qui décidera de la vérité?
Tête.
Cela serait de tout point ridicule.
Socrate.
Eh bien, as-tu quelque autre marque évidente à laquelle on reconnaisse de quel côté est la vérité dans ses jugements?
Tête.
Je n'en vois aucune.
Socrate.
Écoute donc ce que diraient ceux qui prétendent que les choses sont toujours réellement telles qu'elles paraissent à chacun. Voici, ce me semble, les questions qu'ils te feraient.
Tête,
se peut-il qu'une chose totalement différente d'une autre ait la même faculté? Et songe bien qu'il ne s'agit pas d'une chose qui soit en partie la même et en partie différente, mais tout à fait différente.
Tête.
Si on la suppose entièrement différente, il est impossible qu'elle ait rien de commun avec une autre, ni pour la faculté qui la constitue, ni pour quoi que ce soit.
Socrate.
N'est-ce pas alors une nécessité de reconnaître qu'elle est dissemblable?
Tête.
Il me paraît qu'oui.
Socrate.
Or, s'il arrive qu'une chose devienne semblable ou dissemblable, soit à elle-même, soit à quelque autre, en tant que semblable, nous dirons qu'elle est la même, et qu'elle est différente en tant que dissemblable.
Tête.
Sans contredit.
Socrate.
Ne disions-nous pas précédemment que l'univers se compose d'un nombre infini de causes qui donnent le mouvement ou qui le reçoivent?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et que chacune d'elles, venant à entrer en rapport tantôt avec une chose, tantôt avec une autre, ne produira point, dans ces deux cas, les mêmes effets, mais des effets différents.
Théétète.
J'en tombe d'accord.
Socrate.
Ne pourrions-nous pas dire la même chose de toi, de moi et de tout le reste? Par exemple, dirons-nous que Socrate en santé et Socrate malade sont semblables ou dissemblables?
Théétète.
Quand tu parles de Socrate malade, le prends-tu en entier et l'opposes-tu à Socrate en santé, pris aussi en entier?
Socrate.
Tu as très bien saisi ma pensée. C'est ainsi que je l'entends.
Théétète.
Ils sont dissemblables.
Socrate.
Or, ne sont-ils pas différents s'ils sont dissemblables?
Théétète.
Nécessairement.
Socrate.
N'en diras-tu pas autant de Socrate dormant et dans les divers états que nous avons parcourus?
Théétète.
Sans doute.
Socrate.
N'est-il pas vrai que chacune des causes agissantes de leur nature, lorsqu'elle rencontrera Socrate en santé, agira sur lui comme sur un homme différent de Socrate malade, et réciproquement, lorsqu'elle rencontrera Socrate malade?
Théétète.
Pourquoi non?
Socrate.
Et dans l'un et l'autre cas, nous produirons d'autres effets. La cause active est moi qui suis passif à son égard.
Théétète.
Oui, Socrate. Quand je bois du vin en santé, ne me paraît-il pas agréable et doux?
Théétète.
Oui, Socrate. Car, suivant ce qui a été convenu précédemment, la cause active et l'être passif ont produit la douceur et la sensation, qui se mettent en mouvement l'une et l'autre. Et la sensation, se portant vers l'être passif, a rendu la langue sentante. La douceur, au contraire, se portant vers le vin, a fait que le vin fut et parut doux à la langue bien disposée.
Théétète.
C'est en effet ce dont nous sommes convenus.
Socrate.
Mais quand le vin agit sur Socrate malade, n'est-il pas vrai d'abord qu'il n'agit pas réellement sur le même homme, puisqu'il me prend dans un état différent?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Ainsi, Socrate en cet état et le vin qu'il boit produiront d'autres effets. Du côté de la langue, une sensation d'amertume, et du côté du vin, une amertume qui se porte vers le vin. De manière qu'il ne sera point amertume, mais amer, et que je ne serai pas sensation, mais sentant.
Théétète.
Sans contredit.
Socrate.
Je ne deviendrai donc jamais différent, tant que je serai affecté de cette manière et non d'une autre, car il faut une sensation différente, venue d'un objet différent, pour rendre celui qui l'éprouve différent, et en faire tout autre chose. Il n'est pas à craindre non plus que ce qui m'affecte ainsi en rapport avec un autre produise le même effet et devienne ce qu'il a été pour moi. Car en rapport avec un autre, il faut qu'il produise un autre effet et devienne tout autre chose.
Théétète.
Cela est certain.
Socrate.
Ce n'est donc pas par rapport à soi-même que le sujet deviendra ce qu'il est, ni l'objet non plus par rapport à lui-même.
Théétète.
Non, sans doute.
Socrate.
Mais n'est-il pas nécessaire, quand je deviens sentant, que ce soit par rapport à quelque chose, puisqu'il est impossible qu'il y ait sensation sans objet réel, et pareillement, ce qui devient doux, amer, ou reçoit quelque autre qualité semblable, ne doit-il pas devenir tel par rapport à quelqu'un, puisqu'il est également impossible que ce qui devient doux ne soit doux pour personne?
Théétète.
Assurément.
Socrate.
Il reste donc, ce me semble, que le sujet s'entend et l'objet senti, qu'on les suppose dans l'état d'existence ou en voie de génération, ont une existence ou une génération relative, puisque c'est une nécessité que leur manière d'être soit une relation, mais une relation ni d'eux à une autre chose, ni de chacun d'eux à lui-même. Il reste par conséquent que ce soit une relation réciproque de tous les deux à l'égard l'un de l'autre, de façon que, soit qu'on dise d'une chose, qu'elle existe ou qu'elle se fait, il faut dire que c'est par rapport à quelque chose, ou de quelque chose, ou vers quelque chose. Et l'on ne doit ni dire ni souffrir qu'on dise que rien n'existe ou se fait en soi et pour soi. C'est ce qui résulte du sentiment que nous avons exposé.
Théétète, il est vrai, Socrate.
Socrate.
Puis donc que ce qui agit sur moi est relatif à moi et non à un autre. Je le sens et un autre ne le sent pas.
Théétète, sans difficulté.
Socrate.
Ma sensation, par conséquent, est vraie par rapport à moi, car elle tient toujours à ma manière d'être. Et selon Protagoras, c'est à moi de juger de l'existence de ce qui m'est quelque chose et de la non-existence de ce qui ne m'est rien.
Théétète.
Il y a apparence.
Socrate.
Comment donc, si je ne me trompe ni ne bronche sur les choses qui se font ou qui existent, n'aurais-je point la science de ce dont j'ai la sensation ?
Théétète.
Impossible autrement.
Socrate.
Ainsi, tu as fort bien défini la science en disant qu'elle n'est autre chose que la sensation. Et, soit qu'on soutienne avec Homère, Héraclite et leurs partisans, que tout est dans un mouvement et un flux continuel, ou avec le très sage Protagoras, que l'homme est la mesure de toute chose, ou avec Théétète, que, s'il en est ainsi, la sensation est la science, tous ces sentiments reviennent au même. Eh bien, Théétète, dirons-nous que c'est là, en quelque sorte, ton enfant nouveau-né, et que tu l'as mis au jour par mes soins ? Qu'en penses-tu ?
Théétète.
Il faut bien le dire, Socrate.
Socrate.
Quel que soit ce fruit, nous avons eu bien de la peine à le produire. Maintenant que l'enfantement est achevé, il nous faut faire ici, en parole, la cérémonie de l'amphidromie, nous appliquant à bien reconnaître si le nouveau-né mérite d'être élevé ou s'il n'est qu'une production fantastique. Ou bien penses-tu qu'il faille à tout prix élever ton enfant et ne pas l'exposer ? Voyons, souffriras-tu patiemment qu'on l'examine ? Et ne te mettras-tu pas fort en colère si on te l'enlève, comme à une femme accouchée pour la première fois ?
Théodore.
Théétète le souffrira volontiers, Socrate. Il n'a point du tout l'humeur difficile.
Mais, au nom des dieux, dis-nous si en effet ce sentiment est faux.
Socrate.
Il faut que tu aimes bien les discours, Théodore, et que tu sois bien bon pour t'imaginer que je suis comme un sac plein de discours, et qu'il m'est aisé d'en tirer un pour te prouver sur le champ que ce sentiment n'est pas vrai.
Tu ne fais pas attention à ce qui se passe, qu'aucun discours ne vient de moi, mais toujours de celui avec lequel je converse,
et que je ne sais rien qu'une petite chose, je veux dire, examiner passablement ce qui est dit par un autre plus habile. C'est ce que je vais essayer de faire vis-à-vis de Protagoras, sans rien dire de moi-même.
Théodore.
Tu as raison, Socrate. Fais comme tu dis.
Socrate.
Sais-tu, Théodore, ce qui m'étonne dans ton ami Protagoras ?
Théodore.
Quoi donc ?
Socrate.
J'ai été fort content de tout ce qu'il dit ailleurs, pour prouver que chaque chose est ce qu'elle paraît à chacun. Mais j'ai été étonné qu'au commencement de sa vérité,
il n'est pas dit que le pourceau, le cynocéphale, ou quelque être encore plus bizarre, capable de sensations, est la mesure de toute chose. C'eût été là un début magnifique et tout à fait insultant pour notre espèce, par lequel il nous eût donné à entendre que, tandis que nous l'admirons comme un dieu pour sa sagesse, il ne l'emporte pas en intelligence. Je ne dis point sur un autre homme, mais sur une grenouille girine. Que dire en effet, Théodore, si les opinions qui se forment en nous par le moyen des sensations sont vraies pour chacun, si personne n'est plus en état qu'un autre de prononcer sur ce qu'éprouve son semblable, ni plus habile à discerner la vérité ou la fausseté d'une opinion, si au contraire, comme il a souvent été dit, chacun juge uniquement ce qui se passe en lui, et si tous ses jugements sont droits et vrais, pourquoi, mon cher ami, Protagoras serait-il savant au point de se croire en droit d'enseigner les autres et de mettre ses leçons à un si haut prix? Et nous, des ignorants, condamnés à aller à son école, chacun étant à soi-même la mesure de sa propre sagesse. Peut-on ne pas dire que Protagoras n'a parlé de la sorte que pour se moquer? Je me tais sur ce qui me regarde et sur mon talent de faire accoucher les esprits dans son système. Ce talent est souverainement ridicule, aussi bien, ce me semble, que tout l'art de la dialectique. Car n'est-ce pas une extravagance insigne d'entreprendre, d'examiner et de réfuter réciproquement ses idées et ses opinions, tandis qu'elles sont toutes vraies pour chacun, si la vérité de Protagoras est bien la vérité, et si ce n'est pas en badinant que du sanctuaire de son livre, elle nous a dicté ses oracles ?